Chapitre 20. René de l'Estorade à Louise de Chaulieu. Mais si l'amour est la vie du monde, pourquoi d'austères philosophes le suppriment-ils dans le mariage? Pourquoi la société prend-elle pour loi suprême de sacrifier la femme à la famille en créant ainsi nécessairement une lutte sourde au sein du mariage? Lutte prévue par elle et si dangereuse qu'elle a inventé des pouvoirs pour en armer l'homme contre nous. En devinant que nous pourrions tout annuler, soit par la puissance de la tendresse, soit par la persistance d'une haine cachée. Je vois en ce moment dans le mariage deux forces opposées que le législateur aurait dû réunir. Quand se réuniront-elles? Voilà ce que je me dis en te lisant. Ô cher, une seule de tes lettres ruine cet édifice bâti par le grand écrivain de l'Aveyron et où je m'étais logé avec une douce satisfaction. Les lois ont été faites par des vieillards, les femmes s'en aperçoivent. Ils ont bien sagement décrété que l'amour conjugal, exempt de passion, ne nous avilissait point, et qu'une femme devait se donner sans amour une fois que la loi permettait à un homme de la faire sienne. Préoccupés de la famille, ils ont imité la nature, inquiètes seulement de perpétuer l'espèce. J'étais un être auparavant, et je suis maintenant une chose. Il est plus d'une larme que j'ai dévorée au loin, seule, et que j'aurais dû donner en échange d'un sourire consolateur. D'où vient l'inégalité de nos destinées? L'amour permis a grandi ton âme. Pour toi, la vertu se trouvera dans le plaisir. Tu ne souffriras que de ton propre vouloir. Ton devoir, si tu épouses ton Felipe, deviendra le plus doux, le plus expansif des sentiments. Notre avenir est gros de la réponse, et je l'attends avec une inquiète curiosité. Tu aimes, tu es adoré. Ô cher, livre-toi tout entière à ce beau poème qui nous a tant occupés. Cette beauté de la femme, si fine et si spiritualisée en toi, Dieu l'a faite ainsi pour qu'elle charme et plaise. Il a ses desseins. Oui, mon ange, garde bien le secret de ta tendresse et soumets, Felipe, aux épreuves subtiles que nous inventions pour savoir si l'amant que nous rêvions serait digne de nous. Sache surtout moins s'il t'aime que si tu l'aimes. Rien n'est plus trompeur que le mirage produit en notre âme par la curiosité, par le désir, par la croyance au bonheur. Toi qui, seul de nous deux, demeures intacte, cher, ne te risque pas sans art au dangereux marché d'un irrévocable mariage. Je t'en supplie. Quelquefois, un geste, une parole, un regard dans une conversation sans témoin, quand les âmes sont déshabillées de leur hypocrisie mondaine, éclaire des abîmes. Tu es assez noble, assez sûre de toi, pour pouvoir aller hardiment en des sentiers où d'autres se perdraient. Tu ne saurais croire en quelles anxiétés je te suis. Malgré la distance, je te vois, j'éprouve tes émotions. Aussi, ne manque pas à m'écrire. N'omets rien. Tes lettres me font une vie passionnée au milieu de mon ménage, si simple, si tranquille, unie comme une grande route par un jour sans soleil. Ce qui se passe ici, mon ange, est une suite de chicanes avec moi-même, sur lesquelles je veux garder le secret aujourd'hui. Je t'en parlerai plus tard. Je me donne et me reprends avec une sombre obstination, en passant du découragement à l'espérance. Peut-être demandais-je à la vie plus de bonheur qu'elle ne nous en doit. Au jeune âge, nous sommes assez portés à vouloir que l'idéal et le positif s'accordent. Mes réflexions, et maintenant je les fais toutes seules, assises au pied d'un rocher dans mon parc, m'ont conduite à penser que l'amour dans le mariage est un hasard sur lequel il est impossible d'asseoir la loi, qui doit tout régir. Mon philosophe de l'Aveyron a raison de considérer la famille comme la seule unité sociale possible et d'y soumettre la femme comme elle l'a été de tout temps. La solution de cette grande question, presque terrible pour nous, est dans le premier enfant que nous avons. Aussi voudrais-je être mère, ne fût-ce que pour donner une pâture à la dévorante activité de mon âme. Louis est toujours d'une adorable bonté. Son amour est actif et ma tendresse est abstraite. Il est heureux, il cueille à lui seul les fleurs sans s'inquiéter des efforts de la terre qui les produit. Heureux égoïsme! Quoi qu'il puisse m'en coûter, je me prête à ses illusions. Comme une mère, d'après les idées que je me fais d'une mère, se brise pour procurer un plaisir à son enfant. Sa joie est si profonde qu'elle lui ferme les yeux et qu'elle jette ses reflets jusque sur moi. Je le trompe par le sourire ou par le regard plein de satisfaction que me cause la certitude de lui donner le bonheur. Aussi, le nom d'amitié dont je me sers pour lui dans notre intérieur est-il mon enfant. J'attends le fruit de tant de sacrifices qui seront un secret entre Dieu, toi et moi. La maternité est une entreprise à laquelle j'ai ouvert un crédit énorme. Elle me doit trop aujourd'hui. Je crains de n'être pas assez payée. Elle est chargée de déployer mon énergie et d'agrandir mon cœur, de me dédommager par des joies illimitées. Ô mon Dieu, que je ne me sois pas trompée. Là est tout mon avenir et, chose effrayante à penser, celui de ma vertu.
Chapitre 21. Louise de Chaulieu à René de l'Estorade. Juin. Chère biche mariée, ta lettre est venue à propos pour me justifier à moi-même une hardiesse à laquelle je pensais nuit et jour. Il y a je ne sais quel appétit en moi pour les choses inconnues, ou, si tu veux, défendues, qui m'inquiète et m'annonce au-dedans de moi-même un combat entre les lois du monde et celles de la nature. Je ne sais pas si la nature est chez moi plus forte que la société, mais je me surprends à conclure des transactions entre ces puissances. Enfin, pour parler clairement, je voulais causer avec Felipe, seul avec lui, pendant une heure de nuit, sous les tilleuls, au bout de notre jardin. Assurément, ce vouloir est d'une fille qui mérite le nom de commère éveillée que me donne la duchesse en riant et que mon père me confirme. Néanmoins, je trouve cette faute prudente et sage. Tout en récompensant tant de nuits passées au pied de mon mur, je veux savoir ce que pensera mon Felipe de mon escapade et le juger dans un pareil moment. En faire mon cher époux, s'il divinise ma faute, ou ne le revoir jamais, s'il n'est pas plus respectueux et plus tremblant que quand il me salue en passant à cheval aux Champs-Élysées. Quant au monde, je risque moins à voir ainsi mon amoureux qu'à lui sourire chez Madame de Maufrigneuse ou chez la vieille marquise de Beauséant, où nous sommes maintenant enveloppés d'espions. Car Dieu sait de quel regard on poursuit une fille soupçonnée de faire attention à un monstre comme Macumer. Oh, si tu savais combien je me suis agitée en moi-même à rêver ce projet, combien je me suis occupée à voir par avance comment il pourrait se réaliser. Je t'ai regrettée. Nous aurions bavardé pendant quelques bonnes petites heures, perdues dans les labyrinthes de l'incertitude, et jouissant par avance de toutes les bonnes ou mauvaises choses d'un premier rendez-vous à la nuit, dans l'ombre et le silence, sous les beaux tilleuls de l'hôtel de Chaulieu, criblés par les mille lueurs de la lune. J'ai palpité toute seule en me disant « Ah, René, où es-tu ? » Donc, ta lettre a mis le feu aux poudres et mes derniers scrupules ont sauté. j'ai jeté par ma fenêtre, à mon adorateur stupéfait, le dessin exact de la clé de la petite porte au bout du jardin avec ce billet. On veut vous empêcher de faire des folies. En vous cassant le cou, vous raviriez l'honneur à la personne que vous dites aimer. Êtes-vous digne d'une nouvelle preuve d'estime ? Et méritez-vous que l'on vous parle à l'heure où la lune laisse dans l'ombre les tilleuls au bout du jardin ? Hier, à 1 heure, au moment où Griffiths allait se coucher, je lui ai dit « Prenez votre châle et accompagnez-moi, ma chère. Je veux aller au fond du jardin, sans que personne le sache. » Elle ne m'a pas dit un mot et m'a suivi. Quelle sensation, ma Renée ! Car après l'avoir attendue, en proie à une charmante petite angoisse, je l'avais vue se glissant comme une ombre. Arrivée au jardin sans encombre, je dis à Griffiths « Ne soyez pas étonné, il y a là le baron de Macumer, et c'est bien à cause de lui que je vous ai emmené. » Elle n'a rien dit. « Que voulez-vous de moi ?» m'a dit Felipe, d'une voix dont l'émotion annonçait que le bruit de nos robes, dans le silence de la nuit, et celui de nos pas sur le sable, quelque léger qu'il fût, l'avaient mis hors de lui. « Je veux vous dire ce que je ne saurais écrire, » lui ai-je répondu. Griffiths est allé à 6 pas de nous. La nuit était une de ces nuits tièdes, embaumées par les fleurs. J'ai ressenti dans ce moment un plaisir enivrant à me trouver presque seule avec lui, dans la douce obscurité des tilleuls, au-delà desquels le jardin brillait, d'autant plus que la façade de l'hôtel reflétait en blanc la lueur de la lune. Ce contraste offrait une vague image du mystère de notre amour, qui doit finir par l'éclatante publicité du mariage. Après un moment donné de part et d'autre au plaisir de cette situation neuve pour nous deux, et où nous étions aussi étonnés l'un que l'autre, j'ai retrouvé la parole. « Quoique je ne craigne pas la calomnie, je ne veux plus que vous montiez sur cet arbre, » lui dis-je en lui montrant l'orme, « ni sur ce mur. Nous avons assez fait, vous l'écolier et moi la pensionnaire. Élevons nos sentiments à la hauteur de nos destinées. Si vous étiez mort dans votre chute, je mourrais déshonoré. » Je l'ai regardé, il était blême. « Et si vous étiez surpris ainsi, ma mère ou moi, nous serions soupçonnés. »« Pardon, » a-t-il dit d'une voix faible. « Passez sur le boulevard, j'entendrai votre pas, et quand je voudrai vous voir, j'ouvrirai ma fenêtre. Mais je ne vous ferai courir, et je ne courrai ce danger que dans une circonstance grave. Pourquoi m'avoir forcé par votre imprudence à en commettre une autre et à vous donner une mauvaise opinion de moi ? » J'ai vu dans ses yeux des larmes qui m'ont paru la plus belle réponse du monde. « Vous devez croire, lui dis-je en souriant, que ma démarche est excessivement hasardée. » Après 1 ou 2 tours faits en silence sous les arbres, il a trouvé la parole. « Vous devez me croire stupide, et je suis tellement ivre de bonheur que je suis sans force et sans esprit. Mais sachez du moins qu'à mes yeux, vous sanctifiez vos actions, par cela seulement que vous vous les permettez. Le respect que j'ai pour vous ne peut se comparer qu'à celui que j'ai pour Dieu. D'ailleurs, Miss Griffiths est là. » « Elle est là pour les autres et non pas pour nous, Felipe, » lui ai-je dit vivement. « Cet homme, ma chère, m'a comprise. »« Je sais bien, » reprit-il en me jetant le plus humble regard, « qu'elle n'y serait pas. Tout se passerait entre nous comme si elle nous voyait. Si nous ne sommes pas devant les hommes, nous sommes toujours devant Dieu, et nous avons autant besoin de notre propre estime que de celle du monde. »« Merci, Felipe, » lui ai-je dit en lui tendant la main par un geste que tu dois voir. Une femme, et prenez-moi pour une femme, est bien disposée à aimer un homme qui la comprend. « Oh, seulement disposée !» repris-je en levant un doigt sur mes lèvres. « Je ne veux pas que vous ayez plus d'espoir que je n'en veux donner. mon cœur n'appartiendra qu'à celui qui saura y lire et le bien connaître. Nos sentiments, sans être absolument semblables, doivent avoir la même étendue, être à la même élévation. Je ne cherche point à me grandir, car ce que je crois être des qualités comporte sans doute des défauts. Mais si je ne les avais point, je serais bien désolée. Après m'avoir accepté pour serviteur, vous m'avez permis de vous aimer, dit-il en tremblant et me regardant à chaque mot. J'ai plus que je n'ai primitivement désiré. Mais, lui ai-je vivement répliqué, je trouve votre lot meilleur que le mien. Je ne me plaindrai pas d'en changer, et ce changement vous regarde. À moi maintenant de vous dire merci, m'a-t-il répondu. Je sais les devoirs d'un loyal amant. Je dois vous prouver que je suis digne de vous, et vous avez le droit de m'éprouver, aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous pouvez, mon Dieu, me rejeter si je trahissais votre espoir. Je sais que vous m'aimez, lui ai-je répondu. Jusqu'à présent, j'ai cruellement appuyé sur le mot, vous êtes le préféré. Voilà pourquoi vous êtes ici. Nous avons alors recommencé quelques tours en causant, et je dois t'avouer que, mis à l'aise, mon espagnol a déployé la véritable éloquence du cœur, en m'exprimant, non pas sa passion, mais sa tendresse. Car il a su m'expliquer ses sentiments par une adorable comparaison avec l'amour divin. Sa voix pénétrante, qui prêtait une valeur particulière à ses idées déjà si délicates, ressemblait aux accents du rossignol. Il parlait bas, dans le médium plein de son délicieux organe, et ses phrases se suivaient avec la précipitation d'un bouillonnement. Son cœur y débordait. « Cessez, lui dis-je, je resterai là plus longtemps que je ne le dois. » Et par un geste, je l'ai congédié. « Vous voilà engagée, mademoiselle, » m'a dit Griffiths. « Peut-être en Angleterre, mais non en France, » ai-je répondu négligemment. « Je veux faire un mariage d'amour et ne pas être trompée, voilà tout. »« Tu le vois, ma chère, l'amour ne venait pas à moi. J'ai agi comme Mahomet avec sa montagne. » Vendredi. J'ai revu mon esclave. Il est devenu craintif. Il a pris un air mystérieux et dévot qui me plaît. Il me paraît pénétré de ma gloire et de ma puissance. Mais rien, ni dans ses regards, ni dans ses manières, ne peut permettre aux devineresses du monde de soupçonner en lui cet amour infini que je vois. Cependant, ma chère, je ne suis pas emportée, dominée, domptée. Au contraire, je dompte, je domine et j'emporte. Enfin, je raisonne. Ah, je voudrais bien retrouver cette peur que me causait la fascination du maître, du bourgeois à qui je me refusais. Il y a deux amours, celui qui commande et celui qui obéit. Ils sont distincts et donnent naissance à deux passions, et l'une n'est pas l'autre. Pour avoir son compte de la vie, peut-être une femme doit-elle connaître l'une et l'autre. Ces deux passions peuvent-elles se confondre ? Un homme à qui nous inspirons de l'amour, nous en inspirera-t-il ? Felipe sera-t-il un jour mon maître ? Tremblerai-je comme il tremble ? Ces questions me font frémir. Il est bien aveugle. À sa place, j'aurais trouvé mademoiselle de Chaulieu sous ses tilleuls bien coquettement froide, compassée, calculatrice. Non, ce n'est pas aimé, cela. C'est badiner avec le feu. Felipe me plaît toujours, mais je me trouve maintenant calme et à mon aise. Plus d'obstacles. Quel terrible mot. En moi, tout s'affaisse, se rassoit, et j'ai peur de m'interroger. Il a eu tort de me cacher la violence de son amour. Il m'a laissé maîtresse de moi. Enfin, je n'ai pas les bénéfices de cette espèce de faute. Oui, chère, quelque douceur que m'apporte le souvenir de cette demi-heure passée sous les arbres, je trouve le plaisir qu'elle m'a donné bien au-dessous des émotions que j'avais en disant « Y viendrai-je? N'y viendrai-je pas? Lui écrirai-je? Ne lui écrirai-je point? En serait-il donc ainsi pour tous nos plaisirs? Serait-il meilleur de les différer que d'en jouir? L'espérance vaudrait-elle mieux que la possession? Les riches sont-ils les pauvres? Avons-nous toutes deux trop étendu les sentiments en développant outre mesure les forces de notre imagination? Il y a des instants où cette idée me glace. Sais-tu pourquoi? Je songe à revenir sans Gwyffis au bout du jardin. Jusqu'où irai-je ainsi? L'imagination n'a pas de bornes, et les plaisirs en ont. Dis-moi, cher docteur encorsé, comment concilier ces deux termes de l'existence des femmes? Chapitre 22. Louise à Felipe. Je ne suis pas contente de vous. Si vous n'avez pas pleuré en lisant Bérénice de Racine, si vous n'y avez pas trouvé la plus horrible des tragédies, vous ne me comprendrez point. Nous ne nous entendrons jamais. Brisons, ne nous voyons plus, oubliez-moi. Car si vous ne me répondez pas d'une manière satisfaisante, je vous oublierai. Vous deviendrez monsieur le baron de Macumer pour moi, ou plutôt, vous ne deviendrez rien. Vous serez pour moi comme si vous n'aviez jamais existé. Hier, chez Madame d'Espard, vous avez eu je ne sais quel air content qui m'a souverainement déplu. Vous paraissiez sûr d'être aimé. Enfin, la liberté de votre esprit m'a épouvanté, et je n'ai point reconnu en vous, dans ce moment, le serviteur que vous disiez être dans votre première lettre. Loin d'être absorbé, comme doit l'être un homme qui aime, vous trouviez des mots spirituels. Ainsi ne se comporte pas un vrai croyant. Il est toujours abattu devant la divinité. Si je ne suis pas un être supérieur aux autres femmes, si vous ne voyez point en moi la source de votre vie, je suis moins qu'une femme, parce qu'alors je suis simplement une femme. Vous avez éveillé ma défiance, Felipe. Elle a grondé de manière à couvrir la voie de la tendresse. Et quand j'envisage notre passé, je me trouve le droit d'être défiante. Sachez-le, monsieur le ministre constitutionnel de toutes les Espagnes, j'ai profondément réfléchi à la pauvre condition de mon sexe. Mon innocence a tenu des flambeaux dans ses mains sans se brûler. Écoutez bien ce que ma jeune expérience m'a dit et ce que je vous répète. En toute autre chose, la duplicité, le manque de foi, les promesses inexécutées rencontrent des juges, et les juges infligent des châtiments. Mais il n'en est pas ainsi pour l'amour, qui doit être à la fois la victime, l'accusateur, l'avocat, le tribunal et le bourreau. Car les plus atroces perfidies, les plus horribles crimes, demeurent inconnus, se commettent d'âme à âme sans témoin. Et il est dans l'intérêt, bien entendu, de l'assassiné de se taire. L'amour a donc son code à lui, sa vengeance à lui. Le monde n'a rien à y voir. Or, j'ai résolu, moi, de ne jamais pardonner un crime, et il n'y a rien de léger dans les choses du cœur. Hier, vous ressembliez à un homme certain d'être aimé. Vous auriez tort de ne pas avoir cette certitude, mais vous seriez criminel à mes yeux si elle vous ôtait la grâce ingénue que les anxiétés de l'espérance vous donnaient auparavant. Je ne veux vous voir ni timide ni fat. Je ne veux pas que vous trembliez de perdre mon affection, parce que ce serait une insulte. Mais je ne veux pas non plus que la sécurité vous permette de porter légèrement votre amour. Vous ne devez jamais être plus libre que je ne le suis moi-même. Si vous ne connaissez pas le supplice, qu'une seule pensée de doute impose à l'âme, tremblez que je ne vous la prenne. Par un seul regard, je vous ai livré mon âme, et vous y avez lu. Vous avez à vous les sentiments les plus purs qui jamais se soient élevés dans une âme de jeune fille. La réflexion, les méditations dont je vous ai parlé n'ont enrichi que la tête. Mais quand le cœur froissé demandera conseil à l'intelligence, croyez-moi, la jeune fille tiendra de l'ange qui sait et peut tout. Je vous le jure, Felipe, si vous m'aimez comme je le crois, et si vous devez me laisser soupçonner le moindre affaiblissement dans les sentiments de crainte, d'obéissance, de respectueuse attente, de désir soumis que vous annonciez, si j'aperçois un jour la moindre diminution dans ce premier et bel amour qui de votre âme est venu dans la mienne, je ne vous dirai rien. Je ne vous ennuierai point par une lettre plus ou moins digne, plus ou moins fière ou courroucée, ou seulement grondeuse comme celle-ci. Je ne dirai rien, Felipe. Vous me verriez triste, à la manière des gens qui sentent venir la mort. Mais je ne mourrai pas sans vous avoir imprimé la plus horrible flétrissure, sans avoir déshonoré de la manière la plus honteuse celle que vous aimiez, et vous avoir planté dans le cœur d'éternels regrets, car vous me verriez perdue ici-bas aux yeux des hommes et à jamais maudite en l'autre vie. Ainsi, ne me rendez pas jalouse d'une autre Louise, heureuse d'une Louise saintement aimée, d'une Louise dont l'âme s'épanouissait dans un amour sans ombre, et qui possédait, selon la sublime expression de Dante, « senza brama sicura ricchezza », posséder sans crainte des richesses qui ne peuvent être perdues. Sachez que j'ai fouillé son enfer pour en rapporter la plus douloureuse des tortures, un terrible châtiment moral auquel j'associerai l'éternelle vengeance de Dieu. Vous avez donc glissé dans mon cœur, hier, par votre conduite, la lame froide et cruelle du soupçon. Comprenez-vous? J'ai douté de vous, et j'en ai tant souffert que je ne veux plus douter. Si vous trouvez mon servage trop dur, quittez-le, je ne vous en voudrai point. Ne sais-je donc pas que vous êtes un homme d'esprit? Réservez toutes les fleurs de votre âme pour moi. Ayez les yeux ternes devant le monde. Ne vous mettez jamais dans le cas de recevoir une flatterie, un éloge, un compliment de qui que ce soit. Venez me voir chargé de haine, excitant mille calomnies ou accablé de mépris. Venez me dire que les femmes ne vous comprennent point, marchent auprès de vous sans vous voir, et qu'aucune d'elles ne saurait vous aimer. Vous apprendrez alors ce qu'il y a pour vous dans le cœur et dans l'amour de Louise. Nos trésors doivent être si bien enterrés que le monde entier les foule aux pieds sans les soupçonner. Si vous étiez beau, je n'eusse sans doute jamais fait la moindre attention à vous et n'aurais pas découvert en vous le monde de raison qui fait éclore l'amour. Et, quoique nous ne les connaissions pas plus que nous ne savons comment le soleil fait éclore les fleurs ou mûrir les fruits, néanmoins, parmi ces raisons, il en est une que je sais et qui me charme. Votre sublime visage n'a son caractère, son langage, sa physionomie que pour moi. Moi seul, j'ai le pouvoir de vous transformer, de vous rendre le plus adorable de tous les hommes. Je ne veux donc point que votre esprit échappe à ma possession. Il ne doit pas plus se révéler aux autres que vos yeux, votre charmante bouche et vos traits ne leur parlent. À moi seul d'allumer les clartés de votre intelligence comme j'enflamme vos regards. Restez ce sombre et froid, ce maussade et dédaigneux grand d'Espagne que vous étiez auparavant. Vous étiez une sauvage domination, détruite dans les ruines de laquelle personne ne s'aventurait. Vous étiez contemplé de loin. Et voilà que vous frayez des chemins complaisants pour que tout le monde y entre, et vous allez devenir un aimable Parisien. Ne vous souvenez-vous plus de mon programme? Votre joie disait un peu trop que vous aimiez. Il a fallu mon regard pour vous empêcher de faire savoir au salon le plus perspicace, le plus railleur, le plus spirituel de Paris, qu'Armande Louise Marie de Chaulieu vous donnait de l'esprit. Je vous crois trop grand pour faire entrer la moindre ruse de la politique dans votre amour. Mais si vous n'aviez pas avec moi la simplicité d'un enfant, je vous plaindrais. Et malgré cette première faute, vous êtes encore l'objet d'une admiration profonde pour Louise de Chaulieu.
Lettre numéro 23. Felipe à Louise. Quand Dieu voit nos fautes, il voit aussi nos repentirs. Vous avez raison, ma chère maîtresse. J'ai senti que je vous avais déplu, sans pouvoir pénétrer la cause de votre souci. Mais vous me l'avez expliqué, et vous m'avez donné de nouvelles raisons de vous adorer. Votre jalousie à la manière de celle d'un dieu d'Israël m'a rempli de bonheur. Rien n'est plus saint ni plus sacré que la jalousie. Ô mon bel ange gardien, la jalousie est la sentinelle qui ne dort jamais. Elle est à l'amour ce que le mal est à l'homme, un véridique avertissement. Soyez jalouse de votre serviteur, Louise. Plus vous le frapperez, plus il lâchera, soumis, humble et malheureux, le bâton qui lui dit en frappant combien vous tenez à lui. Mais hélas, cher, si vous ne les avez pas aperçus, est-ce donc Dieu qui me tiendra compte de tant d'efforts pour vaincre ma timidité, pour surmonter les sentiments que vous avez crus faibles chez moi? Oui, j'ai bien pris sur moi pour me montrer à vous comment j'étais avant d'aimer. On goûtait quelques plaisirs dans ma conversation à Madrid, et j'ai voulu vous faire connaître à vous-même ce que je valais. Est-ce une vanité? Vous l'avez bien puni. Votre dernier regard m'a laissé dans un tremblement que je n'ai jamais éprouvé, même quand j'ai vu les forces de la France devant Cadix, et ma vie mise en question dans une hypocrite phrase de mon maître. Je cherchais la cause de votre déplaisir sans pouvoir la trouver, et je me désespérais de ce désaccord de notre âme, car je dois agir par votre volonté, penser par votre pensée, voir par vos yeux, jouir de votre plaisir et ressentir votre peine, comme je sens le froid et le chaud. Pour moi, le crime et l'angoisse étaient ce défaut de simultanéité dans la vie de notre cœur que vous avez faite si belle. Lui déplaire, ai-je répété mille fois depuis comme un fou. Ma noble et belle Louise, si quelque chose pouvait accroître mon dévouement absolu pour vous et ma croyance inébranlable en votre sainte conscience, ce serait votre doctrine qui m'est entrée au cœur comme une lumière nouvelle. Vous m'avez dit à moi-même mes propres sentiments, vous m'avez expliqué des choses qui se trouvaient confuses dans mon esprit. Oh, si vous pensez punir ainsi, quelles sont donc les récompenses? Mais m'avoir accepté pour serviteur suffisait à tout ce que je veux. Je tiens de vous une vie inespérée, je suis voué, mon souffle n'est pas inutile, ma force à son emploi, ne fût-ce qu'à souffrir pour vous. Je vous l'ai dit, je vous le répète, vous me trouverez toujours semblable à ce que j'étais quand je me suis offert comme un humble et modeste serviteur. Oui, fussiez-vous déshonoré et perdu comme vous dites que vous pourriez l'être, ma tendresse s'augmenterait de vos malheurs volontaires. J'essuierai les plaies, je les cicatriserai. Je convaincrai Dieu par mes prières que vous n'êtes pas coupable et que vos fautes sont le crime d'autrui. Ne vous ai-je pas dit que je vous porte en mon cœur les sentiments si divers qui doivent être chez un père, une mère, une sœur et un frère. Que je suis avant toute chose une famille pour vous, tout et rien selon vos vouloirs. Mais n'est-ce pas vous qui avez emprisonné tant de cœurs dans le cœur d'un amant? Pardonnez-moi donc d'être de temps en temps plus amant que père et frère, en apprenant qu'il y a toujours un frère, un père derrière l'amant. Si vous pouviez lire dans mon cœur quand je vous vois belle et rayonnante, calme et admirée au fond de votre voiture aux Champs-Élysées ou dans votre loge au théâtre. Ah, si vous saviez combien mon orgueil est peu personnel en entendant un éloge arraché par votre beauté, par votre maintien, et combien j'aime les inconnus qui vous admirent. Quand par hasard vous avez fleuri mon âme par un salut, je suis à la fois humble et fier. Je m'en vais comme si Dieu m'avait béni. Je reviens joyeux et ma joie laisse en moi-même une longue trace lumineuse. Elle brille dans les nuages de la fumée de ma cigarette, et j'en sais mieux que le sang qui bouillonne dans mes veines est tout à vous. Ne savez-vous pas combien vous êtes aimé? Après vous avoir vu, je reviens dans le cabinet où brille la magnificence sarrasine, mais où votre portrait éclipse tout lorsque je fais jouer le ressort qui doit le rendre invisible à tous les regards. Et je me lance alors dans l'infini de cette contemplation, je fais là des poèmes de bonheur. Du haut des cieux, je découvre le cours de toute une vie que j'ose espérer. Avez-vous quelquefois entendu dans le silence des nuits, ou malgré le bruit du monde, une voix résonner dans votre chère petite oreille adorée? Ignorez-vous les 1000 prières qui vous sont adressées? À force de vous contempler silencieusement, j'ai fini par découvrir la raison de tous vos traits, leur correspondance avec les perfections de votre âme. Je vous fais alors, en espagnol, sur cet accord de vos deux belles natures, des sonnets que vous ne connaissez pas, car ma poésie est trop au-dessous du sujet, et je n'ose vous les envoyer. Mon cœur est si parfaitement absorbé dans le vôtre que je ne suis pas un moment sans penser à vous, et si vous cessiez d'animer ainsi ma vie, il y aurait souffrance en moi. Comprenez-vous maintenant, Louise, quel tourment pour moi d'être, bien involontairement, la cause d'un déplaisir pour vous et de n'en pas deviner la raison? Cette belle double vie était arrêtée, et mon cœur sentait un froid glacial. Enfin, dans l'impossibilité de m'expliquer ce désaccord, je pensais n'être plus aimé. Je revenais bien tristement, mais heureux encore, à ma condition de serviteur, quand votre lettre est arrivée et m'a rempli de joie. Oh, grondez-moi toujours ainsi! Un enfant qui s'était laissé tomber dit à sa mère « Pardon !» en se relevant et en lui déguisant son mal. Oui, pardon de lui avoir causé une douleur. Eh bien, cet enfant, c'est moi. Je n'ai pas changé. Je vous livre la clé de mon caractère avec une soumission d'esclave. Mais, chère Louise, je ne ferai plus de faux pas. Tâchez que la chaîne qui m'attache à vous et que vous tenez soit toujours assez tendue pour qu'un seul mouvement dise vos moindres souhaits à celui qui sera toujours votre esclave, Felipe.
Lettre 24, Louise de Chaulieu à René de l'Estorade. Octobre 1824. Ma chère amie, toi qui t'es mariée en 2 mois à un pauvre souffreteux de qui tu t'es faite la mère, tu ne connais rien aux effroyables péripéties de ce drame joué au fond des cœurs et appelé l'amour, où tout devient en un moment tragique, où la mort est dans un regard, dans une réponse faite à la légère. J'ai réservé pour dernière épreuve à Felipe une terrible mais décisive épreuve. J'ai voulu savoir si j'étais aimé quand même. Le grand et sublime mot des royalistes, et pourquoi pas des catholiques. Il s'est promené pendant toute une nuit avec moi sous les tilleuls au fond de notre jardin. Et il n'a pas eu dans l'âme l'ombre même d'un doute. Le lendemain, j'étais plus aimée, et pour lui tout aussi chaste, tout aussi grande, tout aussi pure que la veille. Il n'en avait pas tiré le moindre avantage. Oh, il est bien espagnol, bien abancérage. Il a gravi mon mur pour venir baiser la main que je lui tendais dans l'ombre du haut de mon balcon. Il a failli se briser. Mais combien de jeunes gens en feraient autant? Tout cela n'est rien. Les chrétiens subissent d'effroyables martyrs pour aller au ciel. Avant-hier, au soir, j'ai pris le futur ambassadeur du roi à la cour d'Espagne, mon très honoré père, et je lui ai dit en souriant « Monsieur, pour un petit nombre d'amis, vous mariez au neveu d'un ambassadeur votre chère Armande, à qui cet ambassadeur, désireux d'une telle alliance et qui l'a mendiée assez longtemps, assure au contrat de mariage son immense fortune et ses titres après sa mort, en donnant dès à présent aux deux époux 100 000 livres de rente et reconnaissant à la future une dot de 800 000 francs. Votre fille pleure, mais elle plie sous l'ascendant irrésistible de votre majestueuse autorité paternelle. Quelques médisants disent que votre fille cache sous ses pleurs une âme intéressée et ambitieuse. Nous allons ce soir à l'opéra dans la loge des gentilshommes, et monsieur le baron de Macumer y viendra. « Il ne va donc pas ?» me répondit mon père en souriant et me traitant en ambassadrice. « Vous prenez Clarisse Harlowe pour Figaro ?» lui ai-je dit en lui jetant un regard plein de dédain et de raillerie. « Quand vous m'aurez vu la main droite dégantée, vous démentirez ce bruit impertinent, et vous vous en montrerez offensé. Je puis être tranquille sur ton avenir. Tu n'as pas plus la tête d'une fille que Jeanne d'Arc n'avait le cœur d'une femme. Tu seras heureuse, tu n'aimeras personne et te laisseras aimer. » Pour cette fois, j'éclatai de rire. « Qu'as-tu, ma petite coquette ? » me dit-il. « Je tremble pour les intérêts de mon pays. » Et voyant qu'il ne me comprenait pas, j'ajoutai « À Madrid !» Vous ne sauriez croire à quel point, au bout d'une année, cette religieuse se moque de son père, dit-il à la duchesse. « Armande se moque de tout !» répliqua ma mère en me regardant. « Que voulez-vous dire ? » lui demandai-je. « Mais vous ne craignez même pas l'humidité de la nuit qui peut vous donner des rhumatismes ?» dit-elle en me lançant un nouveau regard. « Les matinées, répondis-je, sont si chaudes !» La duchesse a baissé les yeux. « Il est bien temps de la marier, dit mon père, et ce sera, je l'espère, avant mon départ. « Oui, si vous le voulez, lui ai-je répondu simplement. 2 heures après, ma mère et moi, la duchesse de Maufrigneuse et madame d'Espard, nous étions comme 4 roses sur le devant de la loge. Je m'étais mise de côté, ne présentant qu'une épaule au public, et pouvant tout voir sans être vue, dans cette loge spacieuse qui occupe un des 2 pans coupés au fond de la salle entre les colonnes. Macumer est venu, s'est planté sur ses jambes et a mis ses jumelles devant ses yeux pour pouvoir me regarder à son aise. Au premier entracte est entré celui que j'appelle le roi des ribauds, un jeune homme d'une beauté féminine. Le comte Henri de Marsay s'est produit dans la loge avec une épigramme dans les yeux, un sourire sur les lèvres, un air joyeux sur toute la figure. Il a fait les premiers compliments à ma mère, à madame d'Espard, à la duchesse de Maufrigneuse, au comte d'Esgrignon et de Saint-Hérène. Puis il me dit « Je ne sais pas si je serai le premier à vous complimenter d'un événement qui va vous rendre un objet d'envie. » « Un mariage, ai-je dit. Est-ce une jeune personne si récemment sortie du couvent qui vous apprendra que les mariages dont on parle ne se font jamais ?» Monsieur de Marsay s'est penché à l'oreille de Macumer et j'ai parfaitement compris, par le seul mouvement des lèvres, qu'il lui disait « Baron, vous aimez peut-être cette petite coquette qui s'est servie de vous, mais comme il s'agit de mariage et non d'une passion, il faut toujours savoir ce qui se passe. » Macumer a jeté sur l'officieux médisant un de ces regards qui, selon moi, sont un poème, et lui a répliqué quelque chose comme « Je n'aime point de petite coquette », d'un air qui m'a si bien ravi que je me suis dégantée en voyant mon père. Felipe n'avait pas eu la moindre crainte ni le moindre soupçon. Il a bien réalisé tout ce que j'attendais de son caractère. Il n'a foi qu'en moi. Le monde et ses mensonges ne l'atteignent pas. La bancérage n'a pas sourcillé. La coloration de son sang bleu n'a pas teint sa face olivâtre. Les 2 jeunes comtes sont sortis. J'ai dit alors, en riant, à Macumer, « Monsieur de Marsay vous a fait une épigramme sur moi. » « Bien plus qu'une épigramme, » a-t-il répondu, « un épithalame. » « Vous me parlez grec ? » lui ai-je dit en souriant, et le récompensant par un certain regard qui lui fait toujours perdre contenance. « Je l'espère bien !» s'est écrié mon père en s'adressant à madame de Maufrigneuse. « Il court des commérages infâmes. Aussitôt qu'une jeune femme va dans le monde, on a la rage de la marier et l'on invente des absurdités. Je ne marierai jamais Armande contre son gré. Je vais faire un tour au foyer, car on croirait que je laisse courir ce bruit-là pour donner l'idée de ce mariage à l'ambassadeur. Et la fille de César doit être encore moins soupçonnée que sa femme, qui ne doit pas l'être du tout. » La duchesse de Maufrigneuse et madame d'Espard regardèrent d'abord ma mère, puis le baron, d'un air pétillant, narquois, rusé, plein d'interrogations contenues. Ces fines couleuvres ont fini par entrevoir quelque chose. De toutes les choses secrètes, l'amour est la plus publique, et les femmes l'exhalent, je crois. Aussi, pour le bien cacher, une femme doit-elle être un monstre? Nos yeux sont encore plus bavards que ne l'est notre langue. Après avoir joui du délicieux plaisir de trouver Felipe aussi grand que je le souhaitais, j'ai naturellement voulu davantage. J'ai fait alors un signal convenu pour lui dire de venir à ma fenêtre, par le dangereux chemin que tu connais. Quelques heures après, je l'ai trouvé, droit comme une statue, collé le long de la muraille, la main appuyée à l'angle du balcon de ma fenêtre, étudiant les reflets de la lumière de mon appartement. « Mon cher Felipe, lui ai-je dit, vous avez été bien ce soir. Vous vous êtes conduit comme je me serais conduite moi-même si l'on m'eût appris que vous faisiez un mariage. J'ai pensé que vous m'eussiez instruit avant tout le monde, a-t-il répondu. Et quel est votre droit à ce privilège?
Celui d'un serviteur dévoué.
L'êtes-vous vraiment?
Oui, dit-il, et je ne changerai jamais.
« Eh bien, si ce mariage était nécessaire, si je me résignais... » La douce lueur de la lune a été comme éclairée par les deux regards qu'il a lancés sur moi, d'abord, puis sur l'espèce d'abîme que nous faisait le mur. Il a paru se demander si nous pouvions mourir ensemble écrasés. Mais, après avoir brillé comme un éclair sur sa face et jailli de ses yeux, ce sentiment a été comprimé par une force supérieure à celle de la passion. « L'arabe n'a qu'une parole, » a-t-il dit d'une voix étranglée. « Je suis votre serviteur et vous appartiens. Je vivrai toute ma vie pour vous. » La main qui tenait le balcon m'a paru mollir. J'y ai posé la mienne en lui disant « Felipe, mon ami, je suis, par ma seule volonté, « votre femme, dès cet instant, allez me demander dans la matinée à mon père. Il veut garder ma fortune, mais vous vous engagerez à me la reconnaître au contrat sans l'avoir reçue, et vous serez sans aucun doute agréé. Je ne suis plus Armande de Chaulieu. Descendez promptement. Louise de Macumer ne veut pas commettre la moindre imprudence. » Il a pâli, ses jambes ont fléchi, il s'est élancé d'environ 10 pieds de haut à terre, sans se faire le moindre mal. Mais, après m'avoir causé la plus horrible émotion, il m'a salué de la main et a disparu. « Je suis donc aimée, me suis-je dit, comme une femme ne le fut jamais. » Et je me suis endormie avec une satisfaction enfantine. Mon sort était à jamais fixé. Vers 2 heures, mon père m'a fait appeler dans son cabinet, où j'ai trouvé la duchesse, et Macumer. Les paroles s'y sont très gracieusement échangées. J'ai tout simplement répondu que, si M. Hénarez s'était entendu avec mon père, je n'avais aucune raison de m'opposer à leur désir. Là-dessus, ma mère a retenu le baron à dîner. Après quoi, nous avons été tous quatre nous promener au bois de Boulogne. J'ai regardé très railleusement M. de Marsay quand il a passé à cheval, car il a remarqué Macumer et mon père sur le devant de la calèche. Mon adorable Felipe a fait ainsi refaire ses cartes. Hénarez,
des ducs de Soria, baron de Macumer. Tous les matins, il m'apporte lui-même un bouquet d'une délicieuse magnificence, au milieu duquel je trouve toujours une lettre qui contient un sonnet espagnol à ma louange, fait par lui pendant la nuit. Pour ne pas grossir ce paquet, je t'envoie comme échantillon le premier et le dernier de ces sonnets, que je t'ai traduit mot à mot en te les mettant vers par vers. Premier sonnet. Plus d'une fois, couvert d'une mince veste de soie, l'épée haute, sans que mon cœur battît une pulsation de plus, j'ai attendu l'assaut du taureau furieux, et sa corne plus aiguë que le croissant de Phoebé. J'ai gravi, fredonnant une séguidille andalouse, le talus d'une redoute sous une pluie de fer. J'ai jeté ma vie sur le tapis vert du hasard, sans plus m'en soucier que d'un quadruple d'or. J'aurais pris avec la main les boulets dans la gueule des canons, mais je crois que je deviens plus timide qu'un lièvre aux aguets, qu'un enfant qui voit un spectre au pli de sa fenêtre. Car, lorsque tu me regardes avec ta douce prunelle, une sueur glacée couvre mon front, mes genoux se dérobent sous moi. Je tremble, je recule, je n'ai plus de courage. Deuxième sonnet. Cette nuit, je voulais dormir pour rêver de toi. Mais le sommeil jaloux fuyait mes paupières. Je m'approchais du balcon et je regardais le ciel. Lorsque je pense à toi, mes yeux se tournent toujours en haut. Phénomène étrange que l'amour peut seul expliquer. Le firmament avait perdu sa couleur de saphir. Les étoiles, diamants éteints dans leur monture d'or, ne lançaient que des œillades mortes, des rayons refroidis. La lune, nettoyée de son fard d'argent et de lys, roulait tristement sur le morne horizon. Car tu as dérobé au ciel toutes ses splendeurs. La blancheur de la lune luit sur ton front, charmant. Tout l'azur du ciel s'est concentré dans tes prunelles, et tes cils sont formés par les rayons des étoiles. Peut-on prouver plus gracieusement à une jeune fille qu'on ne s'occupe que d'elle ? Que dis-tu de cet amour qui s'exprime en prodiguant les fleurs de l'intelligence et les fleurs de la terre ? Depuis une dizaine de jours, je connais ce qu'est cette galanterie espagnole si fameuse autrefois. Ah, ça, cher, que se passe-t-il à la crampade, où je me promène si souvent en examinant les progrès de notre agriculture ? N'as-tu rien à me dire de nos mûriers, de nos plantations de l'hiver dernier ? Tout y réussit-il à tes souhaits ? Les fleurs sont-elles épanouies dans ton cœur d'épouse en même temps que celles de nos massifs ? Je n'ose dire de nos plates-bandes. Louis continue-t-il son système de madrigaux ? Vous entendez-vous bien ? Le doux murmure de ton filet de tendresse conjugale vaut-il mieux que la turbulence des torrents de mon amour ? Mon gentil docteur en jupon s'est-il fâché ? Je ne saurais le croire, et j'enverrai Felipe en courrier se mettre à tes genoux et me rapporter ta tête ou mon pardon s'il en était ainsi. Je fais une belle vie ici, cher amour, et je voudrais savoir comment va celle de Provence. Nous venons d'augmenter notre famille d'un Espagnol coloré comme un cigare de la Havane, et j'attends encore tes compliments. « Vraiment, ma belle Renée, je suis inquiète. J'ai peur que tu ne dévores quelques souffrances pour ne pas en attrister mes joies, méchante. Écris-moi promptement quelques pages où tu me peignes ta vie dans ces infiniment petits. Et dis-moi bien si tu résistes toujours, si ton libre arbitre est sur ses deux pieds ou à genoux, ou bien assis, ce qui serait grave. Crois-tu que les événements de ton mariage ne me préoccupent pas ? Tout ce que tu m'as écrit me rend parfois rêveuse. Souvent, lorsqu'à l'opéra je paraissais regarder des danseuses en pirouette, je me disais « Il est 9h30. Elle se couche peut-être. Que fait-elle ? Est-elle heureuse ? Est-elle seule avec son libre arbitre ? Ou son libre arbitre est-il où vont les libres arbitres dont on ne se soucie plus ? » Mille tendresses. Thank you.
Chapitre 25. René de l'Estorade à Louise de Chaulieu. Octobre. Impertinente, pourquoi t'aurais-je écrit? Que tu sais, je dis. Durant cette vie animée par les fêtes, par les angoisses de l'amour, par ces colères et par ces fleurs que tu me dépeins, et à laquelle j'assiste comme à une pièce de théâtre bien jouée, je mène une vie monotone et réglée à la manière d'une vie de couvent. Nous sommes toujours couchés à 9 heures et levés au jour. Nos repas sont toujours servis avec une exactitude désespérante, pas le plus léger accident. Je me suis accoutumée à cette division du temps et sans trop de peine. Peut-être est-ce naturel? Que serait la vie sans cet assujettissement à des règles fixes qui, selon les astronomes et au dire de Louis, régit les mondes? L'ordre ne lasse pas. D'ailleurs, je me suis imposé des obligations de toilette qui me prennent le temps entre mon lever et le déjeuner. Je tiens à y paraître charmante par obéissance à mes devoirs de femme. J'en éprouve du contentement et j'en cause un bien vif au bon vieillard et à Louis. Nous nous promenons après le déjeuner. Quand les journaux arrivent, je disparais pour m'acquitter de mes affaires de ménage ou pour lire, car je lis beaucoup, ou pour écrire. Je reviens 1 heure avant le dîner et après on joue, on a des visites ou on en fait. Je passe ainsi mes journées entre un vieillard heureux sans désir et un homme pour qui je suis le bonheur. Louis est si content que sa joie a fini par réchauffer mon âme. Le bonheur pour nous ne doit sans doute pas être le plaisir. Quelquefois le soir, quand je ne suis pas utile à la partie et que je suis enfoncé dans une bergère, ma pensée est assez puissante pour me faire entrer en toi. J'épouse alors ta belle vie si féconde, si nuancée, si violemment agitée. Et je me demande à quoi te mèneront ces turbulentes préfaces. Ne tueront-elles pas le livre? Tu peux avoir les illusions de l'amour, toi, chère mignonne. Mais moi, je n'ai plus que les réalités du ménage. Oui, tes amours me semblent un songe. Aussi ai-je de la peine à comprendre pourquoi tu les rends si romanesques. Tu veux un homme qui ait plus d'âme que de sens, plus de grandeur et de vertu que d'amour. Tu veux que le rêve des jeunes filles à l'entrée de la vie prenne un corps. Tu demandes des sacrifices pour les récompenser. Tu soumets ton Felipe à des épreuves pour savoir si le désir, si l'espérance, si la curiosité seront durables. Mais enfin, derrière tes décorations fantastiques, s'élève un autel où se prépare un lien éternel. Le lendemain du mariage, le terrible fait qui change la fille en femme et l'amant en mari peut renverser les élégants échafaudages de tes subtiles précautions. Sache donc enfin que 2 amoureux, tout aussi bien que 2 personnes mariées, comme nous l'avons été, Louis et moi, vont chercher sous les joies d'une noce, selon le mot de Rabelais, un grand peut-être. Je ne te blâme pas, quoique ce soit un peu léger de causer avec ton Felipe au fond du jardin, de l'interroger, de passer 1 nuit à ton balcon, lui sur le mur. Mais tu joues avec la vie, enfant, et j'ai peur que la vie ne joue avec toi. Je n'ose pas te conseiller ce que l'expérience me suggère pour ton bonheur, mais laisse-moi te répéter encore du fond de ma vallée que le viatique du mariage est dans ces mots, résignation et dévouement. Car je le vois, malgré tes épreuves, malgré tes coquetteries et tes observations, tu te marieras absolument comme moi. En étendant le désir, on creuse un peu plus profondément le précipice. Voilà tout. Oh, je voudrais voir le baron de Macumer et lui parler pendant quelques heures, tant je te souhaite de bonheur.